grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 31 juillet 2014. Merci de nous accorder encore une fois votre confiance. Le grand dialogue du jour revient sur le crash le 24 juillet dernier de l'avion de ligne Air Algérie au Mali. Voici les axes sur lesquels nous allons débattre, la sécurité et le contrôle du trafic aérien, l'organisation des secours en cas de crash, les questions juridiques autour du crash de l'avion Air Algérie à Gossi. Nos invités, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, Cheikh Diouara, journaliste, et Manatoulaye Diko, directeur de la radio Gossi, depuis Gossi, dans le nord du Mali. Bonsoir messieurs et bienvenue à ce débat. Je suis Famoussa Sidibé et Petit Ndiara est à la mise en onde. C'est un avion complètement désintégré qu'on a aperçu sur les images amateurs filmées par l'armée du Burkina Faso. Et aucun survivant parmi les 118 personnes, dont un Malien et plus d'une cinquantaine de Français qui se trouvaient à bord du vol AH-5017 parti de Ouagadougou au Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont été les premières à avoir localisé l'épave de l'avion. Elles seront suivies par celle du Mali qui, à travers un communiqué, donne plus de précisions sur les lieux du drame. Alors, le premier volet de cette émission, la sécurité et le contrôle du trafic aérien. Il y a eu de nombreuses déclarations concernant le lieu exact du crash pour localiser cet appareil d'Air Algérie. Quels sont les moyens dont dispose le Mali pour mener de telles enquêtes, Monsieur le directeur Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile?
Merci Monsieur Sidibé, bonjour. Par rapport à la sécurité aérienne au niveau du Mali, d'abord je vais vous expliquer comment se passe la supervision en matière de sécurité aérienne au Mali. S'il y a l'Agence nationale de l'aviation civile qui est chargée de la réglementation et de la supervision de toutes les activités, au niveau de l'aéronautique, il y a les différents exploitants. Comme exploitant, on peut trouver le fournisseur de services de la circulation aérienne, qui est la SECNA, les exploitants d'aéronefs qu'on appelle communément les compagnies aériennes, le gestionnaire de l'aéroport, qui est l'aéroport du Mali au niveau du Mali, et puis les sociétés de sûreté et tout ce qui tourne autour de l'aviation civile au niveau du Mali. En ce qui concerne la gestion du trafic aérien au Mali, c'est la SECNA, à travers la Convention de Dakar, qui gère l'espace des 18 États africains plus la France, dont le Mali. Donc l'espace aérien malien est géré par la SECNA, au compte du gouvernement malien, bien entendu. Donc dans le cas de ces crashs, l'avion devait faire le trajet Ouaga-Alger. Il passe par le territoire malien, mais la gestion de l'espace, de cette partie de l'espace, est confiée une part au contrôle de Ouaga, qui donne après à la FIR de Niamey. Comme FIR, c'est les régions d'information de vol que l'OACI a défini à travers le monde. Il y a 5 pour la SECNA. À part la FIR terrestre, il y a 5. Dakar, Niamey, N'Djamena, Antananarivo au Madagascar et puis Brazza. Donc l'avion a été géré dans un premier temps par le contrôle de Ouaga qui devait le transmettre à la FIR de Niamey. Donc quand il y a eu le crash, c'est à travers la FIR de Niamey qu'on a reçu le message de détresse. Donc pour le Mali, nous on devait faire la notification aux différentes entités concernées, c'est-à-dire le pays d'exploitation, les pays d'immatriculation, l'OACI elle-même, et puis les différents pays concernés que le Mali a eu à faire.
Alors, est-ce que dans ce cas précis, le Mali a été informé du survol de son territoire?
Non. Le Mali est informé à travers la SECNA, parce que c'est la SECNA qui gère au nom du Mali. Et c'est la SECNA qui gère l'espace et qui gère l'avion. L'avion était en contact avec Ouaga, qui devait le transmettre à Niamey. Donc, le Mali est censé gérer, parce que le Mali a confié la gestion à la SECNA dans le cadre de la Convention de Dakar.
Alors, Cheikh Diouara, vous revenez du terrain. Quelles sont les informations que vous avez reçues là-bas? Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport aux difficultés que l'on a eues sur place à localiser cet avion?
Bon, je pense que pour localiser l'avion, il n'y a pas eu de grandes difficultés. Pas du tout. À partir du moment où... Mais juste que l'information est vite partie. Et c'est parti dans tous les sens. Et au même moment, le même jour, je vais dire, il y avait des recherches qui ont été lancées à plusieurs niveaux. Et il se trouvait que un des services aurait repéré quand même quelque chose de semblable qui peut ressembler à une épave ou quelque chose comme ça, à 40 km au sud d'Agalhok. Et une information qui a...
Le service de sécurité malienne.
Non, pas malienne. Donc, très rapidement, cette information a été saisie par la presse et qui, sans attendre vraiment les dernières confirmations, ont parlé de ça et ont mis même d'autres services sur des pistes qui n'étaient pas vraiment bonnes. Par contre, depuis le matin, je veux dire à partir de 11h, il y a eu déjà des localisations. Parce que il y a eu des gens qui ont vu l'avion s'écraser. Il y a des gens qui ont vu, des rares personnes qui ont vu l'avion s'écraser et qui ont aussitôt contacté pour dire effectivement, mais qui, dans un premier temps, ont cru que c'était un bombardement. Parce que c'est un phénomène qu'ils ne connaissent pas et quand ils ont vu une boule de feu s'écraser, ils ont cru comprendre effectivement que c'était un bombardement. Donc tout de suite, ils ont appelé des parents, des connaissances dans des camps de réfugiés au Burkina. Proche du régime burkinabé, parce que la première information qui est arrivée aux autorités burkinabées, c'est pas à partir d'une recherche, non, c'est à partir du terrain. Et c'est des gens qui
nous disent, qui
évidemment dans la zone, qui ont vu l'accident, ils ont appelé des parents dans les camps de réfugiés au Burkina pour leur dire il y a eu un bombardement par là, nous ne savons pas qu'est-ce qui a été bombardé, mais il y a eu un bombardement terrible, quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas compris. Et tout de suite, sachant effectivement ce qui se passe, c'est à partir de Mentao que les autorités burkinabées ont été informées et eux, ils se sont mis effectivement sur la piste. Voilà.
Alors, Manantoulaye Diko, vous êtes directeur de la radio Gossi, vous êtes sur le terrain. Pourquoi les autorités burkinabées ont eu autant de facilité à accéder au site au détriment des forces maliennes?
Bon, je pense que ce n'est pas parce qu'ils ont fait des recherches mieux que les autres pays, mais c'est parce que tout simplement qu'il y a des gens sur le terrain qui ont suivi l'accident de l'avion et que déjà ils sont plus proches du camp des réfugiés du Burkina que les Mali. Donc c'est ça qui a fait que l'autorité burkinabé a été vite informée de l'accident de l'avion sur les lieux.
Alors qu'est-ce qui a fait que les Burkinabés ont eu beaucoup plus de facilité à accéder sur le terrain?
Oui, bon, d'abord c'est parce que dans la zone où l'accident s'est passé, les gens qui sont là-bas, ils sont plus proches des réfugiés du Burkina. Et surtout, il y a même parmi des gens, des réfugiés, qui ont quitté le Burkina. Et maintenant, avec cette saison pluvieuse, ils quittent les réfugiés pour revenir chez eux. Et surtout, il y a d'autres, dont leur lieu de résidence est aussi, mais ils sont déjà dans les camps de réfugiés. Actuellement, leur lieu de résidence, c'est dans la zone où l'accident s'est passé. Parce qu'ils sont dans des pâtirages. Et maintenant, c'est avec ça qu'ils ont suivi l'accident de l'avion. Et maintenant, au lieu de passer l'information au Mali, il faut envoyer directement l'information au camp des réfugiés parce qu'ils sont plus proches. Et eux-mêmes, ils sont même des réfugiés jusqu'à là.
D'accord. Merci beaucoup, Manantoulaye Diko. Vous restez avec nous. Je pense que Cheikh Douara veut ajouter quelque chose.
Allez-y. Moi, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Moi, je pense que il faut d'abord savoir que cette zone de Ndaki, Boulkessi et tout ça, de la zone de Gossi, est une zone c'est une zone de repli après la saison sèche pour les pastoraux surtout, évidemment. Donc, et pendant que ils ont vu l'accident se passer. Et il faut savoir aussi que c'est des zones qui sont beaucoup plus proches, où les populations sont beaucoup plus proches des groupes armés, notamment le MNLA. Et quand ils ont vu l'accident se passer, ils ont tout de suite informé certains leaders du MNLA qui sont quand même en contact avec les autorités burkinabées. Et c'est comme ça que l'information est remontée. Et ça, c'était depuis la fin de matinée. Et alors, ils ont pris les dispositions, effectivement, parce qu'ils savaient exactement, c'est des gens, il y a des personnes qui sont dans cette zone, et parce qu'il n'y a pas le réseau GSM, qui ont des téléphones Iridium, satellites et autres, à partir duquel nous avons les coordonnées GPS pour arriver tout de suite à l'endroit exact. Sinon, monsieur le directeur reconnaît avec moi que le Burkina n'est pas équipé d'autant de moyens pour pouvoir tout de suite et maintenant repérer un avion perdu au milieu de nulle part, pas plus que le Mali. Et c'est pas parce qu'ils ont été non plus beaucoup plus sur l'affaire, parce qu'ils l'ont pris beaucoup plus au sérieux que les autorités maliennes, non. C'est parce qu'ils ont eu cette opportunité à travers les relations avec les groupes armés. Et je pense qu'ils ont aussi bien voulu tirer un profit médiatique et c'est parti comme ça.
Alors, monsieur le directeur, oui, allez-y. Vous êtes le directeur général adjouant de l'Agence nationale de l'aviation civile.
Par rapport aux recherches, dans ce cadre-là, après la mise en place de la cellule au niveau du département,
la cellule de crise,
au niveau de l'état-major de l'armée de l'air, il y a le centre secondaire de recherche et de sauvetage du Mali, qui est basé à la base 101 de l'armée de l'air. Ils ont déclenché les opérations. Je crois à 1 heure ou bien 50 minutes près, ils avaient les mêmes coordonnées que les Burkinabés, parce qu'ils m'ont envoyé dans mon... dans ma boîte, les coordonnées de Boulkessi que l'avion aurait été retrouvé là-bas par la partie burkinabé. Mais au niveau du RSC de Bamako, du Bamako jusqu'à Dessounou pour aller jusqu'à Boulkessi, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, l'armée de l'air n'a aucun avion.
Mais les recherches. Mais monsieur le directeur, vous convenez avec nous que quand vous détenez des informations comme ça, il faut bien entendu communiquer. D'autres en tirent profit. Le Mali fait même mise sur cette information. Non, toute la journée du crash,
c'était nous n'avons pas pu... C'était une coordination entre les différentes structures du secteur. C'est-à-dire qu'on était dans l'action. C'est pour les médias, c'était après, mais on était dans l'action. Mais en coordination et avec le Niger, le Burkina, le centre secondaire de Bamako et la cellule qui est au niveau du département.
Mais vous convenez avec nous que la cellule de crise doit contenir au moins des communicants. Des gens doivent communiquer autour de cette cellule.
Mais il y avait le
crise.
Numéro vert. Et j'ai été au niveau du numéro vert, je l'ai eu pendant plus de 5 heures, je n'ai eu qu'un seul appel.
Et là, toute la difficulté a été la nôtre de pouvoir joindre quelqu'un de l'État pour
sinon, venir, au niveau de la télé, je crois qu'on a communiqué les deux numéros verts. J'ai été en possession de ces numéros verts pendant 5 heures de temps, je n'ai eu qu'un seul appel d'un journaliste. Il me dit qu'il est entièrement satisfait des réponses que je lui ai données.
Alors nous aussi, nous sommes satisfaits de votre présence dans ce studio pour nous édifier encore davantage sur les difficultés que les populations ont eues par rapport au manque d'informations. Alors, monsieur le directeur, nous restons toujours avec vous concernant toujours ce problème de liaison. Est-ce que c'est parce que le Mali s'est engagé dans des traités internationaux que voilà une partie de ces informations sont aujourd'hui, ou bien une partie de ces prérogatives sont aujourd'hui accordées à la SEGNA par rapport au lien que l'on peut faire
non, la SEGNA, on peut dire que la SEGNA, c'est le Mali. Parce que le Mali fait partie de la SEGNA. Le Mali est signataire de la Convention. Et dans le cadre de la Convention, on s'était tombé d'accord sur un certain nombre de principes et de partage de l'espace. Mais dans un avenir très proche, il est prévu que la SEGNA donne la délégation à tous les États de gérer l'espace au-dessus de son territoire. Maintenant, on est en train de construire au niveau de Bamako, c'est nous, le centre secondaire d'information de vol, le CIV. Quand ça va finir, ça va être équipé à radar, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de radar au Mali.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission consacrée à l'organisation des secours en cas de crash au Mali.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Studio Tamani, c'est aussi un site web www.studiotamani.org et une page Facebook sur laquelle vous pouvez réagir à tout moment à travers, voilà, sur nos productions, dont celle-là. Nous sommes donc à la deuxième partie de ce débat dédié à l'organisation des secours en cas de crash au Mali. Nos invités, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, Cheikh Diouara, journaliste qui revient du terrain du crash de l'avion de l'Algérie à Gossi, Manatoulaye Diko, directeur de la radio Gossi. Alors, monsieur le directeur général adjoint Salif Diallo, la SECNA intervient le plus souvent dans les aéroports. Aujourd'hui, quand il y a un crash, quels sont les dispositifs dont dispose le Mali pour intervenir sur le terrain?
Ok, je vous remercie. En cas d'accident sur le territoire malien ou bien d'un avion malien, même sur un autre territoire, il y a un décret qui régit les enquêtes et accidents au Mali. D'abord, la première des choses, c'est la mise en place d'une commission. Mais avant la commission, le décret dit qu'il y a un président de la commission pour les enquêtes d'accident au Mali. Et le président de la commission est nommé pour 7 ans. Donc il y a eu un crash en 2012, il y a eu un président de la commission. Donc c'est lui le président actuel de la commission des enquêtes au Mali. Donc suite à l'accident, quand nous on a fait les notifications, on a donné son adresse à toutes les parties concernées. Et lui, il a pris la relève parce qu'il relève du ministre chargé de l'aviation civile. Donc il a demandé à la SECNA et à l'ANAC de lui fournir 2 experts pour mener les enquêtes de première information. Donc ces 4 experts étaient sur le terrain du dimanche, du vendredi au dimanche. Ils sont revenus dimanche, ils doivent déposer un rapport au niveau du président de la commission qui rencontre au ministre chargé de l'aviation civile. Après ça, le président de la commission est chargé de gérer l'enquête. Mais les textes du Mali disaient, même les textes de l'OACI, que l'état d'occurrence, c'est-à-dire le Mali, qui a la responsabilité de l'enquête, il peut confier la totalité ou bien une partie de l'enquête à un pays tiers. Mais à la date d'aujourd'hui, le président de la commission d'enquête est toujours chargé de l'enquête. Quand on a notifié aux États, tous les États nous ont écrit pour désigner les mandataires qui doivent participer à l'enquête. Donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le Mali qui a la responsabilité totale de l'enquête. On a des accords avec la France. Dans le cas des enquêtes, on avait demandé des accords avec 3 pays, la France, le Canada et puis les États-Unis. La France nous a répondu qu'il n'y a pas de problème. Les Canadiens nous ont demandé les textes du Mali, on les a transmis. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas répondu. Les Américains, de même, parce que c'est l'OACI qui nous avait demandé. Si vous n'avez pas les moyens, demandez les pays qui peuvent. Même le BA de France demande souvent à NTC, aux États-Unis, pour la lecture de certains enregistreurs. Donc c'est dans ces cadres que nous on a signé des accords avec la France. Mais à la date d'aujourd'hui, l'enquête est menée par la partie malienne avec la participation des États. Comme les textes le disent, tous les parties intéressées peuvent désigner, déléguer quelqu'un. Le Burkina vient de désigner ce matin 2 personnes pour participer à l'enquête. Donc l'enquête est de la responsabilité du pays d'occurrence, c'est-à-dire le pays où a eu lieu l'accident, le Mali.
Alors est-ce que le Mali a les moyens techniques nécessaires pour faire la lecture de ces boîtes noires-là dont vous parlez tout à l'heure?
Non. C'est pourquoi on a demandé l'assistance à ces 3 États. Et c'est ce qui fait que sur le plan juridique, on a remis la partie, sur le plan judiciaire, on a mis la partie française, les arrestés pour lecture. À la date d'aujourd'hui, les données, je crois, ont été pratiquement extraites. Maintenant, toutes les parties vont être conviées à Paris pour la lecture des arrestés.
Alors, Manatoulaye Diko, vous êtes directeur de la radio Gossi. Vous êtes sur place, sur les lieux du crash, pas loin des lieux du crash. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe sur place? Qui fait quoi entre l'armée malienne et les forces françaises?
Bon, l'armée malienne et les forces françaises sont venues le plus vite possible, immédiatement, sur les lieux du crash. Et les deux armées ont partagé des affaires, ils ont mené des recherches ensemble. Oui. L'opération Serval, au même titre que l'armée malienne, se sont précipités vite sur les lieux de l'accident. Ils ont mené les mêmes recherches sur le terrain. Oui. Les mêmes jours, et ils ont même passé la nuit là-bas pour continuer les recherches jusqu'au lendemain.
Merci beaucoup, Manatoulaye Diko. Vous restez avec nous. Cheikh Diouara, vous êtes reporter, grand reporter. Vous revenez du terrain. Dites-nous, qui mène la danse dans ce crash, dans les enquêtes?
Bon, je pense que c'est une danse qui va dans tous les sens. Donc, chacun danse au rythme de son tempo. Mais d'abord, moi, je pense qu'il faut quand même... souligner la probité notoire de l'armée malienne dans cette affaire, du Mali d'une manière générale. Si le Burkina s'est précipité, parce que moi je dirais pas qu'ils ont été primés sur l'info, s'ils se sont précipités sur l'info et essayent de tirer un gain politique dans la localisation et la diffusion d'images et tout ça, il faut savoir que dans ce qui est plus important, qui est se rendre sur le terrain et voir qu'est-ce qui est porté secours et autres, quand même la réponse d'urgence, le Mali a été, moi j'ai été très étonné, ça sachant bien les moyens limités des autorités de l'armée et autres, de voir comment l'armée a pu tout de suite se rendre physiquement sur le terrain avec le déploiement, les ambulances, les citernes, etc. et tout ça, et tout de suite déployer les moyens nécessaires pour quadriller le coin, parce qu'il faut savoir que cet avion est tombé dans un coin perdu au milieu de nulle part. Et d'abord, c'est l'armée malienne qui a tracé le chemin, parce qu'il n'y a même pas de route pour s'y rendre. C'est elle qui a tracé le chemin et Serval a suivi les pas de
l'armée malienne. Mais bien avant, l'armée du Burkina était sur place.
Oui, l'armée du Burkina est arrivée en hélicoptère et retournée, mais l'armée malienne a fait tout de suite un déploiement physique. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un convoi, tout un déploiement logistique sur le terrain, parce que eux, ils ont été effectivement sur le terrain faire des photos et revenir, mais l'armée malienne est
en hélicoptère.
En hélicoptère. Mais ce qui a lieu de faire, je pense que la première des choses à faire quand il y a un crash, c'est de se rendre quadriller d'abord le terrain et permettre, et sécuriser les éléments qui pourront permettre de faire une enquête. Donc ça, l'armée malienne a été très efficace dessus et je pense d'ailleurs Serval a beaucoup apprécié. Ils sont arrivés après, effectivement, le déploiement logistique est arrivé après. Quand bien même que depuis le premier jour, ils faisaient la liaison en hélico. Et après, il y a eu aussi le génie du contingent hollandais, néerlandais de la MINUSMA, qui a envoyé dans un premier temps 4 personnes. Et au fur et à mesure, je pense que chacun joue sa partie. Vous avez l'armée malienne en première ligne et à l'intérieur de ce cercle vous avez Serval et tout ça, sauf que aujourd'hui ça évolue à 1000 à l'heure, parce que vous aviez une dizaine de personnes, quelques heures, une centaine, et aujourd'hui, il y a 400-500 personnes sur le site. Et si je peux me permettre, il y a une petite cité, il y a une petite ville qui s'est mise en place avec toute une base de vie. Vous avez, je ne sais pas, plusieurs dizaines de tentes, des corimecs, des maisons préfabriquées en conteneurs qui sont posées. Le BA qui a déployé aussi une très grosse logistique pour faire une base de vie, parce que personne ne bouge du site, en fait, pour les experts. Il y a aussi la police scientifique algérienne qui est là. Il y a, voilà, en fait, pour tous ceux qui sont déployés et qui restent, c'est devenu toute une ville et chacun fait son travail. Les tâches sont réparties et voilà, chacun s'occupe de...
Alors, Monsieur Diallo, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, en dehors de ce volet technique, il y a une prise en charge psychologique qu'il faut greffer aujourd'hui à ce genre de drame. Le Mali enregistre une victime tout de même. Nous avons d'ailleurs invité la famille qui n'a malheureusement pas pu venir à cause d'un calendrier très chargé. Quel a été l'apport psychologique de la partie malienne vis-à-vis de cette famille?
Ok, merci. De ce côté, au niveau de la cellule de crise, je crois que toutes les dispositions ont été prises, parce que au niveau de la cellule, il y avait 6 ou 7 ministres. Donc tous les ministères concernés étaient présents. Donc toutes les dispositions ont été prises par la cellule. Et puis ils se sont rendus même dans la famille pour toutes les dispositions par rapport à la famille du disparu. Je crois qu'au niveau du Mali, on n'a pas eu trop de quoi qu'au niveau des... Parce qu'on a pu gérer le problème de façon pas trop passionnée. Pas trop passionné, donc on n'a pas eu de problème par rapport à la famille du disparu. Le gouvernement, je crois, a pris toutes les dispositions. J'aimerais entendre ça de la bouche de la famille. Si le représentant était là, ça allait être...
Malheureusement, la famille a des contraintes. Elle n'a pas pu faire venir quelqu'un à ce débat.
Il faut le comprendre aussi.
Oui, il y a beaucoup d'émotions autour de ce drame. Nous avons vu des Burkinabés, des Libanais se sont rendus sur place pour commencer leur deuil. Est-ce que un voyage est prévu pour la famille de la seule victime malienne sur place?
Bon, au niveau de la cellule, je n'ai pas principalement d'informations par rapport à ça. Sinon, pratiquement tous les jours, il y a une délégation de la cellule qui se rend sur le site. Le ministre a même été deux fois. Donc avec les différents membres de la cellule, au niveau, chaque jour, il y a un vol sur le site pour s'enquérir de l'évolution des enquêtes et puis de la situation sur le terrain. Donc une visite de la famille, en principe, je ne pense pas si ça va poser problème.
Alors, oui, Cheikh Diouara, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, par rapport aux différentes visites des familles, je voudrais juste dire que c'est vrai, il y en a qui sont partis. Comme, je ne peux pas me garder de le dire encore, comme le Burkina s'est toujours précipité dans les choses, ils ont amené une, deux familles très rapidement. En fait, ce qui n'a pas été apprécié par ceux qui tiennent le terrain,
qui
je veux dire par le BEA, par Serval.
Le BEA, l'armée malienne?
Non, le BEA, c'est le bureau d'études et d'analyse français qui travaille sur le site et qui est maître de l'enquête, si vous voulez. En fait, physique sur le terrain en ce moment, sur des recherches sur le terrain. Pour les éléments de recherche, évidemment. Mais ce que...
Est-ce que vous pensez que ce site a été souillé?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, je pense que même la visite du président burkinabé, Blaise Compaoré, n'a pas été appréciée, parce qu'en plus, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art.
Ça génère l'enquête.
Ça pourrait générer l'enquête, parce que quand vous voyez, les images le disent, on l'a vu marcher dans les débris avec sa délégation, et ce qui n'était pas normal. Ça peut faire atteinte. Et moi, j'ai vu effectivement les éléments du BA engueuler l'ambassadeur du Liban qui était en train de marcher dans les débris. Ils l'ont dit carrément, mais Excellence, arrêtez, vous allez porter préjudice aux éléments d'enquête. Donc, il est prévu, il y a des experts qui sont arrivés de la France avant-hier à Gao et qui sont déployés sur le terrain avec des éléments du Quai d'Orsay, du ministère libanais des Affaires étrangères, etc., qui sont en train de voir ensemble comment mettre les dispositions pour faire venir les familles, créer les conditions pour faire visiter ce site aux familles, qui commence d'abord par faire une duty station à Gao où ils seront, et c'est de là-bas qu'ils seront déployés. Et il y a une commission composée effectivement de psychologues, de personnel médical et tout ça pour la prise en charge. Et il y a un briefing d'abord avant de les déployer sur le terrain. Donc il y a toute une préparation et ça ne se fait pas comme ça. Alors, les dispositions sont en train d'être mises en place et on avait dit qu'aucune famille ne pourrait, le déploiement des familles ne pourrait se faire avant au moins une semaine, donc pas avant la semaine prochaine. Donc tous ceux qui sont partis, ils l'ont fait vraiment de façon anarchique. Voilà.
Alors, Manatoulaye Diko, vous êtes directeur de la radio Gossi. Est-ce que vous avez, la population a apprécié le fait que ce soit le président burkinabé qui se rend en premier sur place?
Non. La population de Gossi n'a pas apprécié l'arrivée de Blaise Compaoré sur le terrain.
Qu'est-ce qu'elle souhaitait?
Bon, nous, ce qu'on a souhaité, que c'est le Mali qui soit le premier vraiment à donner des informations.
D'accord, nous allons observer quelques secondes de pause et nous allons poursuivre avec la troisième et dernière partie de cette émission.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Binkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Un clin d'œil spécial à la radio Dandé de Douanda qui, au même titre que les stations radio partenaires du studio Tamani, vous permettent, où que vous soyez dans les 8 régions du Mali, de Kaya Kidal, de nous suivre. Nous sommes donc à la troisième et dernière partie de ce grand dialogue, troisième partie, qui réfléchit sur les questions juridiques autour du crash de l'avion de l'Algérie au Mali, dans le nord, à Gossi. Nos invités, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation aviation civile. Cheikh Djouara, journaliste, reporter, Manatoulaye Diko, directeur de la radio Gossi. Alors, les questions juridiques autour du crash de l'avion Air Algérie à Gossi. La MINUSMA a déclaré avoir retrouvé la deuxième boîte noire de l'avion. Pourtant, les textes internationaux en matière d'accident aérien prévoient que l'État sur le territoire duquel s'est produit l'accident doit se charger de l'enquête de sécurité. Alors, on se demande pourquoi le Mali n'est pas en première ligne face à une catastrophe qui s'est passée sur son territoire. Alors, directeur, vous nous l'avez dit tout à l'heure que le Mali n'était pas à l'écart, mais cela est difficile à comprendre aujourd'hui. La boîte noire qui est retrouvée par la MINUSMA, finalement, quels sont les rôles, quel rôle a-t-on distribué aux différents acteurs sur le terrain?
Ok. Il y a une petite confusion que je dois lever par rapport aux recherches. Tout le monde peut faire les recherches. Maintenant, la partie française a trouvé la première boîte, la MINUSMA a trouvé la deuxième boîte, mais toutes les deux entités ont remis les deux boîtes à la partie malienne. Et c'est devant le procureur et que le ministre, d'abord qu'on a remis au procureur de la République, et à travers les deux ministres maliens et algériens qui ont transmis à la partie française. Donc dans le cadre des recherches, chacun... S'il y a crash l'avion, les morceaux peuvent aller partout. Tout le monde peut faire des recherches et retrouver l'avion via les épaves. Maintenant, c'est comme je l'ai dit tantôt, dans tous les textes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et dans tous les pays, l'enquête revient au pays d'occurrence, c'est-à-dire le pays où il y a eu l'accident. Donc ils nous ont remis les deux boîtes noires qu'on a transmises au ministre qui était en visite avec le ministre algérien et de façon symbolique parce que ça devait être géré d'abord entre la gendarmerie française et la gendarmerie malienne, ensuite les deux procureurs et de façon solennelle, les deux ministres ont remis à la partie française pour qu'ils transmettent au BIA pour lecture. Ça, c'est le cadre de l'assistance. Sinon, ce n'est pas que c'est donné à la France. C'est le cadre de l'exploitation des boîtes noires que ça a été remis à la partie française.
D'accord. Alors, Cheikh Diallo, vous êtes journaliste, vous revenez du terrain. Est-ce que, une question toute bête, est-ce que l'armée du Burkina est sur place?
Non, l'armée du Burkina n'est pas sur place. Et juste, je pense que le Burkina, ils ont certainement atteint leur objectif dans cette affaire.
Qui était de montrer
là où ça se trouve et tout. Je pense qu'ils ont essayé de tirer un profit médiatique, politique. Mais quelque part à côté aussi, c'est que sûr, on vient pas mettre un point dans la plaie. Mais après, j'espère que dans la poursuite des enquêtes, à un moment donné, il va falloir aussi que le Burkina, que les premiers qui se sont rendus sur le terrain, qu'ils soient écoutés par les enquêteurs, parce que moi, je pense qu'ils auraient pu se rendre avec au moins une autorité malienne, la gendarmerie malienne, quelque chose comme ça. Parce que dans un hélicoptère, tu peux bien localiser cet endroit, faire des photos et tout ça, et retourner sans atterrir dans les décombres. Et quand aujourd'hui, je le dis encore, on ne met pas une aiguille dans la plaie, mais c'est quand on retrouve aujourd'hui des boîtes noires endommagées en partie, la bande d'une des boîtes noires est carrément abîmée à certains endroits, avec des fissures à certains endroits, etc. Et tout ça, je n'accuse personne, mais il va falloir qu'il donne des explications. Légalement, je pense qu'il n'y a aucune disposition légale, aucune convention qui les permet. Même le survol, ça doit être à partir d'une autorisation, mais en dehors même de cela, aller atterrir dans les décombres, faire des photos, on les a même vus manipuler des engins par terre. Donc voilà, là, il faut, parce que tout ça, ça porte préjudice aux éléments d'enquête.
Alors, Salif Diallo, vous êtes directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile. Est-ce que ce genre de comportement est permis par les textes?
Non, en matière d'aviation, tout est réglementé. C'est-à-dire, toutes les parties concernées savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, le fait que la partie Bourglabé a survolé le territoire malien, on était dans le cadre des recherches, donc ça peut se comprendre. Comme l'a dit Cheikh tout de suite, mais avant d'entrer dans le territoire malien, le minimum, c'est d'avertir. Mais comme on était dans le cadre des recherches, l'enquête va déterminer la responsabilité de tout un chacun. C'est sûr et certain. Parce que tout ce, même le crash, mais les opérations de recherche aussi, il y aura des enquêtes par rapport à ça, il y aura des rapports par rapport à comment se sont déroulées les recherches.
Alors, échec Diouara, vous revenez du terrain, vous étiez avec, je pense, une équipe de tournage française. On comprend qu'il y a plus d'une cinquantaine de victimes françaises dans ce crash. L'implication de la France, quand même, n'est pas passée inaperçue.
Ah non, pas du tout. Je pense que la France a tout de suite pris, pour juste vous dire combien la France a eu intérêt. Moi, je travaillais pas pour cette télévision française. Par contre, moi, j'ai pigé pour le New York Times. Et c'est d'ailleurs moi qui ai fait la première dépêche localisant l'avion dans la presse. Au niveau de la presse internationale, évidemment. Mais effectivement, nous étions plusieurs journalistes à se rendre. Et pour vous dire, on n'avait pas eu d'avion. L'aménagement ne voulait pas. Serval ne voulait pas. Personne. Nous avons été obligés, nos organes ont été obligés de louer un avion qui a coûté très cher. Très, très cher. Surtout qu'il n'y avait plus d'avions disponibles et tout ça. Il y avait une crise de kérosène au Mali qui continue encore. J'espère. Donc, ce qui a coûté très cher. Et il y a eu presque tous les médias français traitant de l'international, en télé, en radio, en texte, qui se sont déployés à Gao. Et d'autres ont pris tout de suite la route. D'autres ont eu la chance d'être transportés en hélicoptère par Serval sur le terrain. Et sur un tout autre plan, nous avons vu aussi la rapidité par laquelle le BA a pu se déployer. Parce que le BA, pour se déployer, même à l'intérieur de l'Europe, en cas de crash, ça met pas autant de plombique, mais cette fois-ci c'est allé très 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 vite. Il faut savoir aussi que nous avons la chance d'avoir la base de Serval à Gao, où il y avait déjà certaines dispositions en cas de cas, et l'aménagement, donc le déploiement a été beaucoup très facile, parce que c'est comme s'il y avait la base arrière de Gao était déjà prête, voilà, à toute éventualité, et puisqu'il y en a un, voilà.
Alors, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence de l'aviation civile, la France se dit prête à rapatrier tous les corps en France. Comment faire cela quand il n'y a pas de dépouille?
Non, bon, rapatrier, c'est un peu le... C'est dans le cadre des recherches. C'est les recherches scientifiques françaises qui avaient demandé dans un premier temps à rapatrier pour faire l'identification. Il y a eu la partie à l'Iran qui s'est mêlée dans la danse, qui a amené aussi les experts. Maintenant, les trois parties ont trouvé un terrain d'entente qui vont décider où amener les restes pour la localisation, parce qu'il y a les Libanais aussi. Donc, ils demandaient à être intégrés dans le groupe. Maintenant, tout le monde est axé, dans un premier temps, sur la lecture des boîtes noires, pour avoir les premiers éléments. Ensuite, pleinement, dans le cadre des identifications, comme c'est les trois parties qui ont le plus de ressortissants, avec le Burkina, bon, en principe, le Burkina, je n'ai pas les données, mais le Burkina doit avoir une coopération d'entente dans le cadre des enquêtes axées avec la France aussi, comme nous. Donc, ils vont déléguer leur dossier à la partie française. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est une gestion interne dans le cadre de l'enquête. Au cours de l'enquête, on peut se faire des concessions et puis dire que l'on avait dans tel endroit, ou bien on confie cette partie à telle entité de gérer ça. Ça, c'est au niveau des enquêtes, c'est des arrangements internes.
Et est-ce que vous pensez que les scientifiques vont avoir beaucoup de choses à faire, vu qu'il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas de dépouille? Comment aujourd'hui identifier toutes ces victimes?
Non, ils ont les moyens. Avec les ADN, ils ont les moyens. En matière de recherche, non, ils ont les moyens.
Alors, nous sommes également avec Monsieur Diko. Diko, vous êtes le directeur de la radio Manatoulaye. Diko, vous êtes directeur de la radio Gossi. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé depuis ce crash à Gossi?
Bon, Gossi, tout est calme jusqu'à là, les questions continuent sur les crashs de l'avion. Il y a tellement d'interrogations que ça n'en finit pas jusqu'à là. Les gens attendaient les résultats de la boîte noire de l'avion.
Alors, est-ce que la ville est plus sûre qu'auparavant? On a annoncé plus de 140 militaires maliens pour quadriller la zone du crash. Est-ce qu'il y a eu d'autres renforts dans la localité?
Bon, à Gossi, actuellement, les renforts, quand même, il n'y a pas assez mal. Le renfort est vraiment bien à Gossi actuellement. Surtout la zone est très contrôlée par l'armée malienne actuellement.
Alors, Cheikh, un mot sur la sécurité de cette zone. Bon. Auparavant, comment était-elle?
Non, auparavant, si vous voulez, c'était un Far West. C'est, comme j'ai dit, c'est...
Est-ce que c'est cela qui prouve aussi que la difficulté que les autorités maliennes ont eu à se rendre sur place, est-ce que c'est parce que la zone n'était pas assez sécurisée?
Non, les autorités maliennes n'ont pas eu de difficultés à se rendre sur place. C'est-à-dire que, comme on a expliqué, la façon dont l'opportunité que les autorités burkinabées ont eu à avoir l'information... Et il faut savoir aussi que partir de Ouaga à cet endroit est quatre fois plus court, parce que c'est à 300 km de Ouaga et c'est à 1200 km de Bamako. Donc vous voyez que ça fait quatre fois plus. Et quand ils ont eu l'information, ils auraient pu venir au moins à Gao, parce que c'est juste à côté de Gao, et peut-être aller avec une autorité locale ou l'armée de l'air à partir de Gao et tout ça. Mais ils sont partis directement sur le terrain. Et deux fois, ils sont allés le soir, et la nuit tombait, et le lendemain matin, ils sont allés à la première. Et en plus, ils ont fait des images qui, au lieu de partager avec les autorités maliennes immédiatement, ils ont remis à France 2, à la télévision française France 2, pour diffuser. Voilà.
Mais il y avait une vingtaine de victimes, tout de même, du côté du Burkina. Donc, est-ce que ce n'était pas aussi un moyen de dire nous participons aux enquêtes?
Nonobstant cela, quand on participe à des enquêtes, c'est bien, c'est une aide, mais au moins en collaboration, on ne le fait pas dans le dos du pays où ça s'est passé. Et même la France, qui aujourd'hui a une base militaire, une base aérienne à quelques bandes du crash, qui a des accords beaucoup plus avec le Mali sur le plan militaire, qui protège aujourd'hui cette zone, ne s'est pas précipité en dehors, sans pour autant le faire en étroite collaboration avec les autorités françaises, maliennes. Et vous avez vu, même les boîtes noires qu'elles ont retrouvées ont quand même été remises à Bamako pour être acheminé. Et je pense que c'est la leçon, la bonne leçon de discipline qui est en train d'être montrée au Burkina.
Alors, M. Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, le dernier mot, nous allons l'avoir avec vous concernant aujourd'hui la seule victime malienne. Qu'est-ce qu'elle peut attendre, cette famille? Qu'est-ce que les textes disent?
Non, à la date d'aujourd'hui, le Mali ne peut pas se prononcer d'abord. On attend la suite des événements après les enquêtes. Et maintenant, c'est au gouvernement malien de prendre les dispositions par rapport... Parce que le gouvernement malien va défendre les intérêts des victimes, ça c'est...
De la seule victime ou bien des victimes?
Des victimes, mais principalement la victime malienne. Mais c'est nous qui avons l'enquête. Donc on protège toutes les victimes, parce que nous, l'enquête technique d'abord, pour plus que ça se reproduise. Ensuite, il y aura l'enquête judiciaire. Donc il n'y aura pas d'état d'âme par rapport à ça. Les intérêts de la victime du Mali sera protégé par l'État malien. Les conventions même de l'aviation civile le disent.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous sommes à la fin de cette émission. Ce débat portait sur le crash de l'avion de l'Algérie au nord du Mali, précisément à Gossi. Bilan et de l'enquête, nous l'avons suffisamment décortiqué dans cette émission, et les axes concernaient la sécurité et le contrôle du trafic aérien au Mali, l'organisation des secours en cas de crash dans le pays, les questions juridiques autour de ce crash justement. Nos invités, Salif Diallo, directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, Cheikh Djouara, journaliste, reporter qui revenait du terrain, Manantoulaye Diko, directeur de la radio Gossi. Merci à vous, messieurs, pour votre participation. Je suis Famoussa Sidibé. Petting Diarra était à la mise en onde. Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.